Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 18e épisode, je voudrais parler de la sécurité de l'Europe.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Lundi se tient un sommet d'urgence organisé par Emmanuel Macron, où y assisteront les premiers ministres britanniques, italiens, polonais et le chancelier allemand. Ceci vient après une série de déclarations fracassantes de Donald Trump, mais aussi de son secrétaire à la Défense, son secrétaire d'État et son vice-président. Depuis une dizaine de jours, l'Europe ne sait plus où donner de la tête. Vous en pensez quoi ?
Tout a commencé il y a 2 semaines quand Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait récupérer Gaza, en évacuer les 2 millions d'habitants, leur dire de ne plus jamais revenir et afin d'y reconstruire une riviera du Moyen-Orient. C'est évidemment illégal en droit international, mais ça ne me dérange pas. L'idée n'est pas nouvelle. Il y a quelques mois, Jared Kushner, son gendre, l'avait déjà évoqué. En fait, comme le disait récemment le ministre polonais des Affaires étrangères, Trump a une méthode que les Russes appellent « razvedka bojem », ça veut dire « reconnaissance par le combat ». En gros, il lance des idées, parfois préparées, d'autres fois, elles sont le fruit de son inspiration du moment, et il voit ce qui se passe. Ce que fait Poutine avec les attaques de désinformation ou les opérations clandestines en Europe, Trump le fait avec ses déclarations fracassantes. C'est un expert de la surinformation. Tout ceci avait été parfaitement théorisé par celui que je considère comme le vrai responsable de sa première élection, celle de 2016, à une époque où le président Trump n'était pas encore clair sur son avenir politique. Il s'agit de Steve Bannon.
Vous nous rappelez qui c'est ?
Oui, c'est l'un des principaux architectes de la prise de pouvoir de l'alt-right, qui en fait est devenu le MAGA avec Trump. C'est une bête de médias, un ancien militaire des Marines, un ancien producteur, un stratège politique. C'est probablement le spin doctor le plus influent depuis James Carville à l'époque de Bill Clinton. Dès 2018, en fait, il expliquait, et je cite, « Les démocrates n'ont pas d'importance. L'opposition, ce sont les médias, et la façon de lutter contre les médias, c'est de submerger la zone. Flooding the zone en anglais. » C'est exactement la méthode employée par l'administration Trump de façon beaucoup plus ordonnée qu'elle ne l'était lors de son premier mandat. On en a vu les effets depuis 3 semaines qu'il est au pouvoir. Donc, oui, on peut voir de l'idéologie, mais c'est avant tout une stratégie de conquête qui ne passe pas par les armes, mais par le chantage, l'humiliation, la menace. Et ça marche, parce qu'au lieu de répondre, tout le monde passe son temps à s'offusquer, puis à lui céder. Or, s'offusquer ne sert à rien. Il faut garder tête froide et être ferme, comme avec Poutine.
Tournons-nous vers l'Europe, l'OTAN, la guerre en Ukraine, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler de nombreuses fois sur ce podcast. Le nombre des déclarations des officiels américains donne le tournis. On a eu Donald Trump qui exigeait de remonter le seuil de dépenses en défense des pays membres de l'OTAN à 5% du PNB.
Le niveau moyen de dépenses pour la défense pendant les années de guerre froide, pendant les années 80 et 70.
Exact. Ensuite, on a eu le nouveau secrétaire à la Défense, Peter Hegseth, qui déclare que les priorités des États-Unis ont changé, qu'elles sont tournées vers les problématiques intérieures et la Chine, et surtout que les États-Unis ne pourront plus assurer la sécurité de l'Europe. Il a également évoqué la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la nécessité que des troupes européennes soient placées sur une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine, etc.
C'est évidemment contradictoire. Puisque si les États-Unis refusent d'aider l'Europe en cas d'agression, ça veut dire qu'ils refusent d'appliquer l'article 5 de la charte. Donc, cette déclaration de Pete Hegseth est un acte de décès de l'OTAN. Et s'il n'y a plus d'OTAN, les Européens n'auraient plus aucune raison de se soumettre à un diktat des Américains dans l'espoir futile de les apaiser.
Ensuite, le président Trump a déclaré qu'il avait eu un excellent appel avec Poutine et que les négociations de paix allaient commencer, et qu'ils se re-rencontreraient bientôt en Arabie Saoudite. Selon vous, le plan de paix est un secret de Polichinelle ?
Ben oui, Trump va demander aux Européens d'augmenter significativement leurs dépenses de défense, puisqu'il a mentionné le chiffre que vous évoquiez de 5% du PNB. Il va également exiger l'achat exclusif d'équipements américains, ce qui évidemment ne donne pas beaucoup de chance au développement d'une défense souveraine européenne. N'oublions pas que tout est toujours transactionnel avec Trump et qu'il y a toujours une histoire d'argent quelque part. Il va faire la même chose avec son fameux deal sur les terres rares ukrainiennes avec Zelensky, que d'ailleurs le président ukrainien vient de rejeter, Donc l'argument de Trump étant qu'il en veut pour 500 milliards de dollars de terres rares, ce qui dans son esprit est une façon de rembourser l'argent investi dans le soutien à l'Ukraine, ce qui est évidemment absurde. Ensuite, Trump va négocier avec Poutine, il va proposer un cessez-le-feu, une zone tampon, comme vous le disiez, entre l'Ukraine et la Russie. Les frontières proposées suivront à peu près les lignes de démarcation actuelles, ce qui explique, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, que en annonçant ça trop en avance, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a encouragé les Russes à mettre toutes leurs forces dans la bataille de façon à essayer de gagner le plus de terrain possible. Donc en fait, il a accéléré la guerre en montrant ses cartes. Et enfin, pour revenir sur la zone tampon, pour qu'elle ne soit pas envahie, Trump va demander aux Européens d'en assurer la surveillance. Or, pour ce faire, il faudrait, parce que la zone est immense, il faudrait entre 50 000 et 100 000 hommes. Et les Européens n'ont pas 50 000 hommes à envoyer en Ukraine. C'est matériellement impossible. Vous prenez l'armée britannique, 75 000 hommes. L'armée française, à peu près 120 à 150 000, on va dire, mobilisables en ce moment. Poutine obtiendra également une garantie que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Il va rejeter la présence de troupes européennes dans la zone tampon après avoir fait semblant d'accepter, ce qui d'ailleurs arrangera les Européens, ou alors il va vraiment accepter et revenir dessus. Enfin, il obtiendra une levée des sanctions, ce que les Européens vont probablement refuser, et le président Poutine va en profiter, comme on le sait tous, pour réarmer à fond ce qui a déjà commencé, si ce n'est qu'il n'aura plus le poids du conflit en Ukraine pour stopper son effort de réarmement. Et là, c'est sûr, comme on en parle depuis à peu près 12 mois, on a la guerre, quelle que soit sa forme, sur le sol européen dans les 5 ans à venir.
Donc, 80 ans après Téhéran et Yalta, les Américains et les Russes se partagent de nouveau le monde ? Et les Européens subissent une vassalisation forcée ?
D'abord, les Européens, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Une Europe unie peut parfaitement peser face aux États-Unis et à la Russie, elle a simplement choisi de ne pas le faire. Ensuite, ce n'est pas Yalta. Ici, les Américains veulent céder aux Russes de façon à découpler une possible alliance Russie-Chine. C'est avant tout une mauvaise analyse de la situation et de l'histoire, évidemment, la Chine et la Russie ne seront jamais alliées. C'est juste un mariage de convenance face à ce qu'ils perçoivent comme une surdominance, une hégémonie américaine.
Le plan de paix pour l'Ukraine, tel que vous venez de l'ébaucher, est-il en acquis ?
Ça, c'est ce que diront les gros titres des journaux après les premières discussions, les premières négociations Trump-Poutine, dont on attend toujours une date et la confirmation d'un lieu. On parle de l'Arabie Saoudite. Donc, on va forcément avoir des unes alarmistes. Le mot Yalta, n'en doutons pas, sera souvent évoqué. Trump déclarera que tout est réglé. Poutine reviendra sur ses soi-disant engagements. On connaît déjà la musique. Rappelez-vous Bannon et la submersion de la zone. Si vous inondez les médias de déclarations fracassantes, il n'en reste plus que du bruit et de la peur. C'est ce qui fait toujours le jeu des brutes et des tyrans. En fait, il existe tout de même de nombreuses inconnues. D'abord, les sénateurs américains, dont beaucoup, comme par exemple celui de Caroline du Sud, Lindsey Graham, restent des faucons sur la Russie. Vont-ils faire preuve de courage et refuseront-ils de ratifier le traité ? On ne le sait pas encore. Ensuite, il y a Zelensky, que Trump menacera de toutes les façons possibles et imaginables. Zelensky lui tiendra-t-il tête ? Ce qu'on vient de voir avec la déclaration du président ukrainien hier, qui refusait le soi-disant « deal » dont se vantait Trump sur les terres rares pour un montant de 500 milliards de dollars, est plutôt encourageant. Ensuite, il y a une troisième inconnue. Pendant encore combien de temps les Européens céderont-ils à cet odieux chantage, dans l'espoir futile que Trump se calme ?
Donc ?
Donc on ne sait rien, on peut spéculer, mais le nouveau président américain vient de déclencher un chaos géopolitique dont lui-même ne maîtrise pas l'issue. Ce que l'on sait, surtout avec Trump, c'est que les déclarations ne sont pas la réalité. C'est comme avec la carte et le territoire. Ce que l'on sait aussi, c'est que la Russie restera la menace extérieure numéro 1 qui pèse sur le continent européen pendant les 20 à 30 années à venir. C'est comme une guerre, on connaît bien les intentions des différentes parties, on connaît leurs moyens et leurs ressources, mais on ne peut pas prévoir tous leurs mouvements à l'avance.
Enfin, il y a eu l'intervention de J.D. Vance, le vice-président américain, à la conférence de la sécurité de Munich, où il a en gros donné des leçons de gouvernance aux Européens.
Le discours n'est pas bien passé, mais il faut l'écouter en détail, car Vance ne plaisante pas. Donc c'est intéressant, car on a une assez bonne restitution de l'idéologie au pouvoir dans l'exécutif américain.
Qu'a-t-il dit ?
Il a répété l'évidence que l'Europe devait assurer sa propre sécurité, mais le point principal, qui a beaucoup choqué, c'est que le vrai problème de l'Europe est intérieur. Il a parlé de tentation de la censure, de répression de la liberté d'expression, ce que d'ailleurs vient de reprendre dans une de ses déclarations aujourd'hui Donald Trump. Rappelez-vous ce que je vous disais, submerger la zone, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Vance a aussi parlé de censure des partis qui ne correspondent pas au discours dominant. Il a parlé du refus des élites au pouvoir en Europe de contrôler l'immigration de masse, ceci selon lui contre l'avis de la majorité de la population. Donc pour les uns, c'est une odieuse ingérence dans les affaires intérieures européennes, et plus précisément dans les élections allemandes, on n'est pas dupes, hein, elles ont lieu le 23 février, c'est vraiment pas loin, et on s'attend à une percée significative de l'AFD, le parti d'extrême droite. Pour les autres, c'est l'évidence que les dirigeants européens ne veulent pas écouter.
Qui est Vance ?
Contrairement à Trump, qu'on connaît, un narcissique qui a mis en pratique ce que Bannon avait théorisé, ou Pete Hegseth, qui est en fait un ancien commentateur de Fox qui doit son poste justement à Trump, ou encore Marco Rubio, un ambitieux qui s'est fait humilier suffisamment de fois par Trump, qui en fait, dans l'administration et sur le plan des affaires internationales, est en fait une sorte de fusible de la politique étrangère de Trump. Vance, J.D. Vance, est un intellectuel. C'est aussi la passionnariat de la classe ouvrière blanche américaine, celle qui a voté pour Trump, celle qui est la raison des deux élections de Trump. Ses influences à J.D. Vance sont nombreuses, l'armée, Yale, une enfance assez pauvre et malheureuse, et aussi des personnalités comme Peter Thiel, dont on parle beaucoup, qui est un des gourous de droite de la Silicon Valley, ou encore, d'autres dont on parle moins, René Girard, un philosophe français qui enseignait à Stanford.
Comment décodez-vous son discours ?
C'est un mélange d'idéologies que j'appellerais post-libérales, c'est-à-dire en gros, fini l'internationalisme, fini le règne des institutions internationales, quelles qu'elles soient, souveraineté des peuples et des nations, fini la domination des élites sur les peuples, que justement Vance considère comme une absence de démocratie, fini l'imposition d'un modèle social dominant. Mais c'est aussi, évidemment, le fruit du lobbying forcené de certains partis d'extrême droite européens, surtout en ce moment, Reform de Nigel Farage en Grande-Bretagne ou l'AFD d'Alice Weidel en Allemagne. D'ailleurs, on remarque évidemment que commence à se dessiner un axe Vance-Elon Musk, puisque Vance, finalement, reprend en partie certains des arguments évoqué par Elon Musk depuis un mois et demi, quand il s'attaque régulièrement à la démocratie allemande et à la Grande-Bretagne. Donc c'est cible favorite en ce moment. Pour revenir sur le discours de J.D. Vance, on peut lire ça aussi comme un appel à la démocratie directe. C'est ce que vont dire ses défenseurs. Ce que, évidemment, réfutent les dirigeants européens, qui, eux, se sont sentis violemment attaqués. Or, la démocratie directe, il ne faut pas l'oublier, en son cœur, elle secrète naturellement une forme de populisme. Par exemple, elle donne des Trump. Elle donne d'ailleurs bien plus facilement l'extrême droite que l'extrême gauche, ce qui explique la méfiance historique d'une partie de la gauche envers la démocratie directe, qu'elle soit à l'américaine ou à la Suisse. N'oublions pas qu'en Europe, et plus spécifiquement en Allemagne, on a évidemment un précédent douloureux avec la démocratie directe, l'élection d'Hitler en janvier 1933. Et la dernière fois qu'on a fait un geste de démocratie directe en France, on a eu la dissolution en juillet 2024, et Mélenchon et Le Pen, depuis, dominent le Parlement. On a eu la montée de l'antisémitisme, et évidemment, on a l'incapacité, au bout de 9 mois, de réduire un déficit budgétaire de près de 6%. D'ailleurs, seuls les Suisses, on n'en a pas beaucoup parlé, ont accueilli le discours de Vance avec un certain degré de tolérance, ce qui rappelle leur conception différente de la démocratie. Après, la droite américaine, elle croit réellement que l'Europe est aux prises avec les gauchistes, lesquels, selon eux, seraient alliés aux islamistes, que la liberté d'expression est en recul, que c'est un continent trop régulé, que l'immigration y est incontrôlée, et que son modèle social est caduque. En fait, la droite américaine pensent réellement que l'Europe est au bord du gouffre. Qu'on soit d'accord ou non avec cette vision simpliste, n'importe peu. C'est comme cela que l'on comprend et que l'on peut comprendre la sympathie d'une certaine droite envers Poutine, un dictateur, et l'hostilité envers l'Europe, qui elle est une démocratie. Car l'Europe, telle que les MAGA, donc l'alt-right américaine, qui est au pouvoir, c'est l'Amérique du futur dans leur esprit si elle était restée aux mains des démocrates. Donc, une vision de cauchemar. C'est aussi comme ça que l'on peut comprendre leur mépris des lois et des juges, parce que dans leur esprit, ils sont engagés dans une lutte à mort pour le futur de l'Amérique.
Donc, que doit faire l'Europe ?
Le choix est entre la vassalisation ou l'émancipation. Il n'y a pas besoin de grandes déclarations dans les médias, comme celle que malheureusement on va avoir. Il suffirait d'une chose, une note à l'AFP expliquant que les budgets de la défense des principaux pays européens ont été augmentés à hauteur de 3% du PNB. Je parle des pays d'Europe occidentale, puisque la Pologne est déjà à 4%, l'Estonie à 3,5%, etc. Et du jour au lendemain, Washington et Moscou prendraient l'Europe au sérieux. Mais pour avoir le courage de faire l'évidence et cesser de dire pour ne rien faire, il faut que nos dirigeants se libèrent, d'abord mentalement, d'un fardeau ruineux, ou en tout cas qui est devenu ruineux, le modèle socio-économique des 80 dernières années, qui est fondé sur la régulation à outrance, la charge fiscale, le rôle de l'État comme grand redistributeur, qui est en fait une inanité économique rendue encore plus absurde par l'évolution de la pyramide des âges, qui rend ce modèle insoutenable. Pour que les nations européennes ne périssent pas face à la résurgence des empires, il faut que leurs gouvernements cessent de raconter des histoires à leurs électeurs et se recentrent enfin sur leurs fonctions régaliennes.